Bon retour sur Euradio, nous sommes avec Alain Dantaine, spécialiste des questions de droit international, anciennement professeur de droit international et de géopolitique à l'Université Grenoble-Alpes, membre de l'Institut Rousseau. Une question d'actualité pour aborder cette troisième partie d'interview. Le Rassemblement national a fait une percée au Parlement européen aux élections de juin, mais également en France, à l'Assemblée nationale. Le parti français d'extrême droite dit pouvoir renoncer à certains traités. Il a notamment déposé en janvier 2024 une proposition de loi constitutionnelle qui rendrait inapplicables les dispositions de la CEDH sur les droits de l'homme portant sur les questions d'immigration. Est-ce que c'est une hypothèse envisageable ?
Malheureusement, oui. Rien n'empêche un État d'exiger une sortie du traité. Alors, ça a des conséquences. Et ces conséquences peuvent être lourdes pour un État. Mais par principe, de manière générale, alors c'est un peu plus compliqué que ça juridiquement parlant, mais un traité est ratifié par un État, c'est-à-dire qu'il s'engage à respecter ce traité, le contenu de ce traité. Un État peut retirer sa signature d'un traité. Je parlais de Trump tout à l'heure. Tout le monde se souvient qu'il ne s'est pas privé de retirer la signature des États-Unis sur un certain nombre de traités. Donc c'est quelque chose qui est possible. Mais ça a un coût politique, évident, et pas que politique. Et là, ça nous renvoie sur le terrain juridique, parce qu'il y a beaucoup de traités où il y a des clauses de sortie. Mais un autre, tout à fait autre chose, mais le Brexit. Voilà, il y avait un traité, la Grande-Bretagne a décidé d'en sortir.
Vous, à l'Institut Rousseau, vous proposez une solution très différente, c'est le moins qu'on puisse dire, pour que la France et le reste des pays européens frontaliers de la Méditerranée se conforment à des engagements internationaux sans dépendre des cours administratives suprêmes de chaque pays. C'est notamment de faire de la Méditerranée un espace humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça permettrait concrètement ?
Eh bien, écoutez, on vient de parler de stratégie d'empêchement du travail des ONG, je vous ai parlé de criminalisation. Ce statut de Méditerranée, espace humanitaire, bien permettrait, j'allais dire tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais permettrait aux ONG d'agir librement, c'est-à-dire de pouvoir réellement engager les actions de sauvetage qu'elle le souhaite. Donc c'est quelque chose de fondamental. Ce serait une manière de répondre au vide de régulation en Méditerranée dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une manière de répondre à la faillite morale et juridique dont je vous parlais. Parce que si la Méditerranée est reconnue comme zone humanitaire, ça veut dire que c'est une zone où on va appliquer les principes humanitaire de secours aux personnes en détresse. Personnes en détresse qui, dans le droit international, ont un droit à assistance et à protection. Et donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement important. Tant que les États ne font pas face à leurs responsabilités, et j'ai envie de dire, quand je dis responsabilité, c'est y compris responsabilité juridique, eh bien, c'est une manière de permettre aux secours des personnes en détresse de faire leur travail de manière efficace. Et donc, d'une certaine façon, cette mesure serait aussi un aspect du renforcement nécessaire du respect du droit international dont je vous parlais tout à l'heure. Après, vous savez, on peut rêver, hein, mais ça prendra nécessairement du temps, mais espérons qu'un jour on voit l'apparition d'un service public européen du secours en mer. Et ces questions-là prendront une autre dimension et les ONG n'auront plus à se soucier de cette question. Mais on en est loin.
Un professeur de droit constitutionnel et de droit international public à l'Université de Zurich, Daniel Thürer, déplorait le fait que le droit international humanitaire soit aussi expertisée soit cantonnée aux diplomates et aux spécialistes au lieu d'être diffusée et accessible au grand public. Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que une autre solution, une solution complémentaire, ce ne serait pas aussi une nouvelle communication plus accessible, plus assimilable du sujet qui permette de lier en fait les élites socio-professionnelles et le reste de la population, de la société civile?
Oui, bien sûr. C'est pour cette raison-là que je l'enseigne, le droit international humanitaire. La difficulté de ce droit particulier, mais du droit en général de toute façon, c'est bon, il faut que ce soit connu, mais il faut aussi les moyens de le faire respecter. Et là, en droit international, c'est l'éternelle difficulté, c'est qui est susceptible de faire respecter le droit international humanitaire et qui est susceptible de l'imposer. Si je reviens sur la question de l'Union européenne, vous savez, alors je vous ai compris, hein, je suis assez critique, c'est moins qu'on puisse dire, des politiques migratoires, de fermeture, mais par rapport au droit, il y a quand même quelque chose, j'allais dire d'étonnant, mais en réalité c'est d'inquiétant, parce que il y a dans le droit international, y compris humanitaire, toute une série d'articles qui ne sont pas respectés en réalité. Il y a aujourd'hui des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a le pacte mondial de Marrakech, c'est tout récent, hein, décembre 2018, qui parle, mais qui reprend d'autres articles, je ne vais pas trop m'apesantir, mais qui parle de la nécessité de mettre en place des filières de migration sûres, ordonnées et régulières. C'est l'expression qui revient dans toutes les déclarations, dans tous les pactes internationaux à propos de migration, et nous disent-ils, et ça c'est nécessaire, hein, pour protéger le droit à la vie et lutter contre le trafic et la traite des migrants. Ce que je vous ai dit sur la traite des migrants, c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu. Mais on a des politiques complètement, et en Europe aussi, complètement contradictoires avec les déclarations internationales et avec le contenu du droit international humanitaire. Et c'est cette situation dans laquelle nous sommes et qui est dramatique et qui n'est pas admissible. Il faut respecter le droit. Je l'ai dit en tout début de notre interview, le droit international, il est là pour protéger la paix. Donc ce n'est pas possible de vivre dans un monde où on ne respecte, on peut le critiquer ce droit, on peut chercher à l'améliorer, mais commençons par le respecter.
Il y a une question que je me pose finalement. On a vu au cours de cette interview que le droit humanitaire est riche de conventions, de traités internationaux, de règles qui ne sont pas respectées. Est-ce que réellement élargir le droit international existant, élargir la catégorie de réfugiés aux déplacés climatiques, est-ce que faire de la Méditerranée un espace humanitaire, est-ce que ça peut changer quelque chose concrètement? Est-ce que proposer des solutions comme vous le faites, ça peut réellement avoir un impact?
En fait, vous me demandez si notre publication à l'Institut Rousseau sert à quelque chose. on a fait... Je vais vous répondre à partir de ce que nous avons produit. On est conscient de ce que vous venez de nous dire. Et donc, la réponse qu'on a choisi d'apporter, c'est une réponse par le droit. Pas parce que nous voulons nous limiter à ça. On rappelle dans la note une série de principes comme la solidarité, la dignité, bon, et ainsi de suite. Mais on est, à quelques jours après les élections européennes, on le voit bien, on est dans une période où, comme diraient certains, les vents mauvais soufflent, et ils soufflent évidemment, puisqu'ils sont mauvais, dans la mauvaise direction pour l'action humanitaire, pour tous ceux qui luttent pour un monde meilleur, plus fraternel, de solidarité, et ainsi de suite. Et donc, c'est en quelque sorte une ligne de repli, si vous voulez, une ligne de défense, j'ai envie de dire, que nous avons décidé de mettre en place. Et le droit est un outil de défense des droits, de défense des traités existants, comme je viens de le dire. Alors, on s'est permis d'aller un petit peu plus loin en faisant des propositions comme le visa humanitaire ou Méditerranée, l'espace humanitaire. On a des propositions, mais qui, fondamentalement, tournent autour du droit existant qu'on veut défendre et essayer d'aller un peu plus loin en faisant ces propositions. Du coup, si vous voulez, on ne parle pas de la totalité des migrants, et j'en suis désolé, mais on s'est attaché à la défense du droit d'asile, qu'on a un petit peu élargi, enfin, beaucoup, mais on a fait ce choix qui est un choix de démarche, j'ai envie de qualifier de politique, hein. Comment on défend les migrants aujourd'hui, on s'est dit il existe un droit, c'est le droit d'asile, et c'est en cherchant à défendre ce droit qu'on peut améliorer le sort d'une partie des migrants. J'ai parfaitement conscience, on a parlé tout à l'heure des réfugiés climatiques, parfaitement conscience qu'on ne défend qu'une partie des migrants. Mais voilà, on est dans une telle situation politique qu'on peut espérer que ça change rapidement dans les prochaines élections. Mais voilà, on a tenu compte du rapport de la situation politique européenne et on essaie de construire à notre niveau des réponses.
Je vous remercie Alain Dontaine, c'est la fin de notre interview. Je suis ravie d'avoir pu aborder avec vous tous ces sujets et d'avoir pu traiter de cette actualité sous un angle juridique. Nous avons été un petit peu bavards.
Très bien. Ok, ben, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir, ça fait... si on publie cette note, c'est en espérant qu'il y ait des lecteurs et qu'on ne parle pas dans le vide. Donc, merci beaucoup.
Je rappelle pour nos auditeurs que cette note, Sortir du paradigme sécuritaire, garantir le droit d'asile en Europe, est disponible sur le site de l'Institut Rousseau, aux côtés d'autres articles sur la question de l'immigration, mais aussi de l'écologie, de la démocratie, de l'économie. Et puis, vous qui étiez jusque récemment professeur de géopolitique, vous avez également écrit un livre sur la guerre en Ukraine et son impact géopolitique, publié en avril 2024, ou encore un livre sur les communs globaux en 2023.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.